Vous écoutez Radio Courtoisie, il est 7h30, voici le programme de la journée. Dans quelques instants, le libre journal de Serge de Bekech d'hier soir. À 10h45, le livre du jour d'Anne Brassier, Les trésors en poche. À midi, le libre journal de Lumière 101 du 24 janvier. À 14h, le livre du jour d'Anne Brassier, Les trésors en poche de ce matin. À 16h, le libre journal des éditeurs du 19 juillet 1991. À 18h, le libre journal de Patrick Payon. Et à 21h, les soirées musicales de Radio Courtoisie, programmées par Jean-Pierre Tardif. La radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national sur 95,6 MHz à Paris, 100,6 à Caen, 104,5 à Chartres, 87,8 à Cherbourg, 101,1 au Havre et 98,8 au Mans. Vous écoutez le libre journal de Serge de Bekech, diffusé en direct mercredi 27 janvier de 18h à 21h et en différé dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée du 28 janvier de 7h30 à 10h30. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, adhérez à notre association. Pour l'année 1993, la cotisation minimum est de 250 francs. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Nous adresserons 3 exemplaires de chaque publication aux adhérents qui auront décidé de cotiser pour une somme supérieure à la redevance de télévision. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours du libre journal de Serge de Bekech par téléphone au 46 51 00 85 ou par télécopieur au 46 51 21 82.
Bonsoir à tous. Je suis en train de m'emmêler les pieds dans le fil du micro, ça commence bien. Ce soir, 778 millième jour de la résistance à l'occupant, c'est ce qu'on disait ça dans le temps, vous rappelez. Donc nous recevrons ce soir dans l'émission et dans l'ordre Monsieur André Figueras, écrivain et journaliste, qui viendra nous raconter une petite histoire ponctuelle, comme il les connaît, et comme il aime à les mettre en scène, avec d'ailleurs beaucoup de talent, je trouve, en général, je le dis comme je le pense, une petite anecdote, une petite histoire de mœurs politiques. Voilà comment, voilà ce que sont les mœurs politiques aujourd'hui. Ça ne vous surprendra pas, mais enfin, c'est un sujet, c'est édifiant, c'est une anecdote, voilà. Ensuite, nous recevons le docteur Dor. Alors, le docteur Dor, c'est l'animateur, le président, le secrétaire général, je ne sais jamais les titres, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui représente une association extrêmement sympathique et courageuse qui s'appelle SOS Tout Petit, et qui nous expliquera ce qu'est SOS Tout Petit, quelles sont ses activités, quelles sont ses ambitions, quels sont ses buts, quels sont ses moyens, et quels sont ses besoins. Donc, vous savez déjà comment ça finira, tout ça. Ensuite, nous recevrons Roger Olindre, avec qui nous aurons un entretien sur la situation actuelle de l'armée française au regard de la situation internationale. Qu'est-ce qu'on fait en Somalie? Qu'est-ce qu'on fait en ex-Yougoslavie? Qu'est-ce qu'on fait un peu partout, d'ailleurs? Puis nous aurons, entre-temps, nous aurons Marc Dem, bien entendu. Nous recevrons Marie-Josée de Bravoura, qui nous présentera une nouvelle chronique, une idée qu'elle a eue de petite chronique radiophonique. Puis nous recevrons des étudiants d'Action Française, enfin pas des étudiants, des jeunes camelots du roi ou candidats camelots qui nous expliqueront ce qui s'est passé précisément après la très très belle et très grande cérémonie de la Concorde, quand ils sont allés occuper l'église Sainte-Geneviève. Oui, mais ça, je sais bien que vous n'êtes pas d'accord, Philippe, mais c'est comme ça quand même. Parce que Philippe, il n'aime pas quand on fait des... Il n'aime pas. Tout ce qui est contre la loi, enfin contre la règle, il n'aime pas. Et c'est pas comme ça qu'on prendra le pouvoir, mon pauvre. Et puis, nous terminerons avec Jean Madiran, puisque vous savez que nous diffusons le mercredi soir un extrait d'un entretien que j'ai eu avec Jean Madiran, dans lequel Jean Madiran raconte sa formation de jeune intellectuel français et catholique. Alors, il nous a expliqué d'abord son enfance, puis son adolescence, sa découverte de Saint Thomas d'Aquin, et si je ne m'abuse, aujourd'hui, on va parler de Maurras. Voilà un programme bien rempli, enfin bien à remplir en tout cas. Mais avant, je voudrais commencer, si vous me le permettez, chers auditeurs, chères auditrices, par parler de moi-même, parce que c'est un sujet que je connais quand même pas trop mal. Et il se trouve que, comme ceux qui sont abonnés à Minute La France le savent peut-être depuis ce matin, on vient de mettre un terme à mes fonctions de directeur de Minute La France. Merci, c'est Philippe qui agite un mouchoir blanc pour me faire au revoir, au revoir. Alors, plusieurs auditeurs m'avaient demandé depuis plusieurs semaines qu'est-ce qui se passe à Minute. Et c'était très délicat de le dire parce que les choses n'étaient pas faites. Et quand les choses ne sont pas faites, on a parfois du mal à en parler parce qu'on ne sait pas exactement dans quel sens ça va aller. Et un auditeur qui m'écrit d'ailleurs assez régulièrement, qui est un homme charmant et plein d'humour, me disait « Minute La France a traversé des problèmes, vous nous en avez rarement parlé. Je sais que Radio Courtoisie n'est pas faite pour cela, mais vous nous avez juste dit une fois qu'il manquait 4000 abonnements ou plus pour que l'affaire tourne. C'est dans la presse externe que j'ai appris le passage du flambeau. » Et alors il nous dit « Ce n'est qu'une petite critique, vous avez la pleine vision des choses et du pourquoi et du comment, et donc je suppose que vous faites pour le mieux. » Alors, maintenant je vais dire ce qui s'est passé exactement. Enfin exactement, je vais dire ce que je sais qui s'est passé dans la mesure où ça intéresse les lecteurs de Minute La France et les auditeurs de Radio Courtoisie qui sont en même temps lecteurs. Serge Martinez avait racheté Minute en janvier 1990 et on l'a transformé un an plus tard en Minute La France pour des raisons sur lesquelles je me suis déjà expliqué et qui me paraissaient des raisons de bon sens, c'est-à-dire que je considérais que le titre Minute avait eu son heure de gloire et j'avais participé à ce titre entre 1966 et 1986 pendant 20 ans. Donc, je peux dire que je connaissais bien ce titre et que je l'avais soutenu et j'avais été rédacteur en chef aussi du journal. Donc, j'avais pas du tout honte du titre, c'est pas ça. Mais enfin, un titre, c'est comme un être humain, c'est comme un être vivant. À partir du moment où des années de calomnies, de diffamations, d'insultes, de procès, de poursuites, on finit par jeter un voile sur ce titre, un voile d'opprobre, eh bien, le titre n'est pas récupérable et de plus en plus de gens s'en détachaient et de moins en moins de gens y venaient. Donc il fallait trouver une solution et cette solution c'était de changer le titre pour essayer de faire comprendre que le journal lui-même avait changé, ce qui a été le cas, pas dans son orientation politique, pas dans ses choix éditoriaux, mais dans sa présentation. On est passé à une présentation News Magazine et puis on est passé à un choix beaucoup plus orienté vers les questions de civilisation, qui était quelque chose. C'est une idée à laquelle Pierre Monnier m'avait amené petit à petit en me parlant de la façon dont il avait fait l'insurgé. Moi, j'étais convaincu qu'un journal, c'était surtout un moyen de dénoncer des scandales, de poursuivre des coquins politiques. Et Pierre me disait non, il y a un travail actuellement, il y a un travail de réenracinement, de réidentification. Il faut que les Français sachent mieux à quelle civilisation ils appartiennent. Et donc on avait entrepris de le faire assez modestement, mais avec des grandes signatures, comme Bernard Lugan, comme Anne Bernet, comme Pierre Monnier lui-même, comme Joseph Grec et comme bien d'autres. On avait entrepris de faire ça dans la moitié, la partie arrière du journal, la deuxième moitié du journal. Ça n'a pas donné de mauvais résultats. Ça n'a simplement pas changé le phénomène d'usure des ventes qui s'est poursuivi lentement, puis qui a fini par s'arrêter. C'est-à-dire qu'on avait atteint un nombre de lecteurs qui était à peu près, je dirais, le noyau dur. Je pense pas qu'on pouvait descendre plus bas. On était à 30 000 lecteurs plus 10 000 abonnés, ce qui faisait 40 000 exemplaires. Et puis, Serge Martinez a décidé de se consacrer à ses autres affaires. Faut pas oublier que Serge Martinez est un chef d'entreprise. Il avait à régler de très très importants problèmes de gestion pour une entreprise qu'il avait reprise. Et il pouvait considérer qu'il ne pouvait pas mener de front une carrière politique comme il le faisait au Front National. Et ses affaires de chef d'entreprise, ses occupations de chef d'entreprise, plus la direction d'un journal. Donc il a pris la décision, d'une part, de se retirer du premier plan de l'activité politique, tout en restant un militant, puisqu'il sera candidat à Paris du Front National pour les élections législatives. Et également de se retirer de la direction de Minute en tant que président directeur général et directeur de la publication du journal. Et à ce moment-là, il a passé un accord avec Gérald Pencelelli, qui lui avait été à la tête d'un groupe de presse assez proche de nos idées, qui comprend Le Choc du Mois, La Lettre du magazine Hebdo et Entretien sur l'Histoire. Pas entretien, enquête sur l'histoire. Et donc, au début de l'année, Gérald Pencelelli est devenu PDG de la Société des éditions Minute, prenant la place de Serge Martinez, et il s'est installé avec une équipe dans les locaux de Minute. Et il m'a fait savoir qu'il avait l'intention de modifier la présentation du journal et de faire de Minute, de revenir à l'ancienne formule de Minute. La formule plus populaire, d'un format plus grand, puisque nous on avait le format, ce qu'on appelle le format News Magazine, format 21-29-7. Lui voulait revenir à un format plus grand, au titre Minute, à des gros titres à la une, et privilégier l'information, l'écho, le scandale, la défense des consommateurs, par rapport à ce que j'avais fait, c'est-à-dire la défense d'une certaine tradition culturelle. Et ayant dit, il m'a fait savoir que je n'avais donc plus ma place dans la nouvelle équipe, dans la direction du nouveau Minute. Et donc à partir de ce numéro, le numéro 1607, je cesse d'être directeur de la rédaction de Minute La France. Voilà toute l'affaire. Le nouveau directeur de la rédaction s'appelle Jean-Claude Vallat. Il était jusqu'à aujourd'hui directeur de la rédaction de La Lettre de magazine Hebdo. Il a été rédacteur en chef de magazine Hebdo. Il a également collaboré à Valeurs Actuelles. Il a collaboré, si je ne m'abuse et si je me trompe, j'en demande pardon à l'avance aux intéressés, à Marianne. Il a donc une expérience, une bonne expérience de la presse. Et il s'est entouré d'une équipe dans laquelle on notera la présence de Grégory Pons, qui il y a quelques années avait écrit un livre sur l'extrême droite qui s'appelait Les Rats Noirs, également de Bruno Larubière, également de Michel Marmin, et puis de quelques autres noms que vous verrez apparaître dans les pages de Minute à mesure que les semaines passeront. Et je dirais que le parrain spirituel, le parrain spirituel, il n'y a pas d'autre mot, le directeur de conscience du journal en quelque sorte sera, et d'ores et déjà, Alain de Benoît. Alors effectivement, ça va engager une évolution du titre. Pour ma part, je n'y serai plus. Donc je tiens à le dire aujourd'hui, mes responsabilités ont pris fin hier soir, hier à minuit en quelque sorte, par signification officielle du nouveau directeur, du nouveau président directeur général. Je crois nonobstant que je continue à croire qu'il y a un travail de défense de notre... Alors, je voudrais dire une autre chose. C'est que... Pourquoi cette situation? Bon, il est évident, je l'ai expliqué, c'est parce que d'une part, Martinez voulait mettre un terme à ses activités qu'il occupait trop par rapport à d'autres affaires d'une importance tout à fait considérable, d'une importance financière et humaine considérable. Et que il pouvait pas mener de front ces trois activités. Il y a aussi un problème financier. Non pas que Minute, contrairement à ce qu'on dit, perdait de l'argent, c'est faux. Minute ne perdait plus d'argent depuis quelques mois parce que nous avions pris des dispositions pour que le journal ne perde plus d'argent. C'est-à-dire qu'on avait réduit les dépenses au minimum vital et on était arrivé à équilibrer les comptes et les ventes suffisaient à contrebalancer les dépenses. Mais le journal aurait pu avoir une situation beaucoup plus stable et beaucoup plus confortable que celle qu'il avait. Le problème en France, c'est que les Français n'arrivent pas à se mettre dans la tête cette réalité pourtant évidente, c'est que la presse, un journal, c'est un produit qui vaut ce qu'on le paye. Si on achète une paire de chaussures à 112 francs, et faut pas s'étonner qu'à la première flaque d'eau, les chaussures soient pleines de flotte et qu'on puisse pas parcourir 50 mètres. Si on achète un journal à 10 francs, alors que sorti d'imprimerie, ce journal vaut 20 francs, ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui paye la différence. Or, il faut savoir que ce quelqu'un d'autre, c'est la publicité. Et il faut savoir que Minute la France, a vécu absolument sans publicité, depuis toujours pratiquement, mais tout spécialement depuis 3 ans. Je vais vous citer un exemple qui va vous montrer l'ampleur du problème. J'avais créé dans Minute la France des pages qui étaient des pages de vente par correspondance, de cassettes vidéo et de livres. Le gain mensuel de ces pages, qui était le seul gain publicitaire, assimilable à la publicité en tout cas, était d'environ 25 000 francs. C'est-à-dire que, pour être clair, on gagnait environ 250 000 francs par an. Le chiffre d'affaires publicitaire de Minute la France était en gros de 250 000 francs par an. Ok ? Avez-vous une idée, André Figueras, vous qui êtes un professionnel de la presse et un professionnel depuis de longues années, avez-vous une idée du chiffre d'affaires publicitaire brut en 91 de l'événement du jeudi?
Non, mais je pense que c'est bien au moins mensuellement ce que vous dites pour vous à l'année, et même davantage peut-être.
Alors, je vais vous dire, je vous ai dit que nous, c'était 250 000 francs par an.
Ouais.
L'événement du jeudi, c'est 200 millions par an, c'est-à-dire 20 milliards de centimes. C'est-à-dire que chaque numéro de l'événement du jeudi représente en publicité 4 millions de francs de chiffre d'affaires. Ce qui veut dire que pour contrebalancer sans publicité la force financière que représente la publicité dans l'événement du jeudi, il aurait fallu qu'on ait 400 000 lecteurs. 400 000 acheteurs en numéro. Rien que pour contrebalancer la publicité. Maintenant, il faut savoir...
Je voudrais bien savoir, excusez-moi, mais si cette publicité si coûteuse rapporte ou si c'est une forme déguisée de sponsorisation.
Mais ça, personne ne peut répondre à cette question, en tout cas pas moi. Mais je peux vous donner d'autres chiffres, si vous voulez. On va y venir après. C'est-à-dire que, je répète, que nous avons au départ, vis-à-vis de l'événement du jeudi, un handicap de 400 000 acheteurs. Si on avait 400 000 acheteurs, ça voudrait dire que toutes les semaines, nos recettes de vente du journal représenteraient les recettes de publicité de l'événement du jeudi. À partir de quoi l'événement du jeudi devrait ajouter ses recettes de vente du journal. Mais l'événement du jeudi, c'est le 44e support de publicité français par ordre d'importance du chiffre d'affaires de publicité brute En 91, ces chiffres ont été publiés par la correspondance de la presse. Il faut savoir que TF1, par exemple, en 91, a reçu 7 766 millions de francs, c'est-à-dire 7 milliards et demi de francs, autrement dit 700 milliards de centimes de publicité. Antenne 2, 220 milliards de centimes. RTL, 211 milliards de centimes. Alors, on descend ensuite, je continue la liste parce que la presse écrite n'arrive que loin derrière, enfin pas loin derrière. Le premier organe de presse écrite, c'est le Figaro, avec 100 milliards de centimes. Ensuite, c'est Télé 7 jours, avec 865 millions. Ensuite, le Figaro Magazine, 850 millions. Le Monde, 689 millions. L'Express, 675 millions. Madame Figaro, 666 millions. Le Nouvel Observateur, 550 millions. Elle, 547 millions. Le Quotidien du Médecin, 481 millions. France Rail, pardon, 441 millions. Vous connaissez France Rail ? Moi non plus. Puis Téléstar, Femme Actuelle, Canal+, Paris Match, Les Échos, Nostalgie, Europe 2, Le Parisien, Télérama, Marie-Claire, Télépoche, Le Point, 287 millions. De publicité, VSD, 268 millions. Pardon. Libération, 253 millions. L'Expansion, 253 millions. L'Équipe, 236 millions. L'Événement du Jeudi, 196 millions. France Soir, 180 millions. Prima, 177 millions. Télé Loisirs, 172 millions. Alors nous, avec nos 250 000 francs, on n'est même pas dérisoire. Ça veut dire que si les lecteurs ne se substituent pas au minimum à cette carence, eh bien ça ne peut pas marcher. Ça veut dire qu'un journal qui est vendu 20 francs, quand il arrive en kiosque, la publicité l'a déjà payé entièrement. Et l'argent que vous versez pour acheter le journal, c'est du bénéfice net pour le journal en question. C'est de l'argent qui va directement dans ses caisses et qui sert à gagner de l'argent. Tandis que nous, cet argent, il nous sert à payer l'imprimeur, il nous sert à payer les journalistes, il nous sert à payer les locaux, il nous sert à payer tout ça. Donc, on ne peut pas dire qu'on soit à égalité. Alors, vous allez me dire, pourquoi n'avez-vous pas de pub ? Eh bien, je vais vous raconter une histoire. Je l'ai peut-être déjà racontée, d'ailleurs, mais tant pis, je la raconte encore une fois. Nous n'avons pas de pub parce que la publicité en France est entre les mains d'un lobby. Et ce lobby a donné l'ordre de ne pas nous faire de publicité, de nous donner de publicité. Et quand Serge Martinez a pris la direction générale de Minute la France, enfin de Minute à l'époque, qui devait devenir la France, il m'avait dit, mais ça c'est parce que vous n'avez jamais fait le nécessaire, moi je vais vous aller voir, je vais arranger ça en deux coulées gros, et vous allez voir que de la publicité on en aura. Moyennant quoi, il a loué une péniche sur la Seine, et il a donné à bord de cette péniche un cocktail de grande tenue, où étaient invités tous les responsables d'achat d'espace, ce qu'on appelle les responsables d'achat d'espace, des agences de publicité et des agences d'achat d'espace de Paris. On a vu arriver les gens, et visiblement, les centrales d'achat d'espace et les agences avaient envoyé, après tout, ils ont aussi le droit de s'amuser, de se goberger, de boire du champagne et de manger du caviar, mais ça n'était pas l'objectif de Martinez, avaient envoyé donc les cyclistes, les sténodactylos, les standardistes et les commis aux écritures qui sont montés à bord de la péniche, qui se sont littéralement goinfrés, ça ils aimaient beaucoup le champagne et le caviar visiblement, et à partir des invitations qui étaient numérotées, nous avons fait un tirage au cours duquel, à la faveur duquel nous avons distribué, pour appâter en quelque sorte les annonceurs, ou pour appâter les acheteurs d'espace, des pages de publicité gratuites. Alors, le premier tiré avait gagné, je crois, deux quatrièmes de couverture gratuite, ce qui représente un joli cadeau. Le deuxième, une couverture, une quatrième de couverture. Le troisième, une troisième de couverture. Les autres, deux, une page intérieure, des demi-pages, etc. Et on a comme ça distribué, je prends une vingtaine de prix, alors qu'il y avait 50 personnes dans la salle. Quand je dis distribuer, c'est une façon de parler, parce que pas un seul des lauréats, pas un seul n'est venu chercher son lot. Pas un. Ça, c'est la première anecdote qui montre bien qu'il n'était absolument pas question de passer même gratuitement de la publicité dans Mylène. Et la deuxième anecdote, elle est encore plus belle. J'avais un ami j'ai toujours un ami d'ailleurs qui est en France un des principaux distributeurs d'un produit dont je ne donnerai pas l'identification parce que ça pourrait attirer des ennuis à cet ami. Et il m'avait dit, bon écoute, je te propose une chose, tu vends ce produit par l'intermédiaire d'une page de publicité dans le journal, je ne paye pas la page de publicité car mes commanditaires ne veulent pas que je fasse de publicité, dans une minute, mais en revanche, je vous fais une ristourne de 50% sur le prix du produit. Ce qui fait que si vous réalisez des belles ventes, ça vous permettra de gagner un petit peu d'argent. Ce que nous avons fait. Eh bien, les commanditaires l'ont convoqué en lui disant « Mais on vous a dit de ne pas publier de publicité dans minutes. » Il a dit « Mais c'est pas de la publicité, et je leur fais simplement des conditions commerciales, ils m'achètent le produit, et ils le revendent, et ils prennent au passage leur commission. » Et ces commanditaires lui ont dit « Non, non, il n'est pas question de ça, il n'est pas question que vous fournissiez à minutes. » C'est interdit. Alors il a dit « Non, ce qui est interdit, c'est le refus de vente. Et s'ils veulent m'acheter, je ne peux pas leur refuser la vente. » Non, non, eh bien, prenons le risque du refus de vente, mais il n'est pas question de voir nos produits référencés dans minutes. Voilà pourquoi nous n'avons pas de publicité. Parce que un lobby a décidé que, exerçant un contrôle farouche, jaloux, totalitaire sur la publicité de la presse française, il allait priver la presse nationale, la presse dite d'extrême droite, de cette publicité. Alors évidemment, quand on regarde ce qu'était Minute La France et qu'on met à côté le Figaro Magazine, ouais, on se dit qu'on ne peut pas rivaliser. Le Figaro Magazine est vendu, je ne sais pas combien, même pas 10 francs, je crois. Je ne sais pas combien coûte le Figaro Magazine, je ne sais pas du tout. Enfin, le lot Figaro Magazine, Madame Figaro, Figaro Télé, le Figaro du jour, je ne sais pas du tout ce que ça coûte. Mais enfin, si on compare avec ça, je ne sais pas si c'est 30 francs, je crois pas, ça me paraît beaucoup trop cher. Si on compare avec Minute, il est évident qu'on ne fait pas le poids. Seulement, je vous rappelle que quand vous achetez le Figaro Magazine, le Figaro Madame et le Figaro Télé, vous achetez un journal qui a déjà touché en publicité, d'une part 1,142 milliard, d'autre part 689 millions, d'autre part encore 628 millions, et enfin 537 millions, c'est-à-dire 6 et 6, 12 et 5, 17, et 1, 27, ça fait pratiquement 300 millions de francs de publicité qui ont été payés d'avance. Et nous, nous avons 250 000 francs de publicité, c'est-à-dire exactement 1 million de fois, pardon, je dis une bêtise, exactement 1000 fois moins. C'est 25 francs, c'est ça, le package, comme on dit, Figaro Magazine, Figaro Madame, Figaro Télé et Figaro du samedi. Donc, ces gens-là, qui sont parfaitement respectables, travaillent sur un produit qui, au début de l'année, en quelque sorte, a déjà un chiffre d'affaires publicitaire de 300 millions de francs. De 3 milliards de francs.
Et malgré tout, je ne suis pas absolument certain que leur compte soit en équilibre.
Là, c'est leur problème, là, mais c'est pas de ma faute. Tandis que Minute La France, on arrive et on n'a rien. Voilà ce qu'il faut savoir. Et puis, il y a un autre aspect. Parce qu'on nous dit, mais on ne parle pas de votre journal. Pourquoi ne parle-t-on pas de votre journal? Ben, je vais vous donner une explication, je vais vous donner un exemple. Il y a 3 semaines, on a sorti un papier avec une annonce à la une sur la SACEM. Bon. C'est pas rien. La SACEM, c'est une énorme société privée dont l'activité est de recueillir les redevances que notamment les boîtes de nuit, enfin tous les gens qui diffusent de la musique payent. La SACEM rassemble ces redevances et reverse en quelque sorte la redevance aux compositeurs. C'est une très belle idée, c'est une idée très intéressante. Il se trouve simplement que la SACEM fonctionne d'une façon particulière. Et que c'est une société qui a de très gros frais apparemment. Alors nous avons fait un papier là-dessus, très détaillé, dans lequel nous expliquions le fonctionnement de la SACEM, etc. Je peux vous dire que dans les milieux spécialisés, ce papier a fait un scandale énorme. Dans la presse, absolument personne n'en a parlé. Absolument personne. Et ce matin, alors je rappelle que c'est Minute La France qui a sorti cette affaire. Ce matin, dans le Figaro, dans le supplément La vie des médias et de la publicité du Figaro, je vois dans la rubrique confidentielle, qui est tenue par l'excellent Claude Jacquemart et par Roland Mihail, je lis ça, SACEM, alors je dis, tiens, il va être question de nous pour une fois, la nouvelle croisade d'Ayache. Et je lis, l'éditeur à la Hayage vient de déposer un recours devant le Conseil de la concurrence contre la position monopolistique, les pratiques anticoncurrentielles de la SACEM, dont le directeur général Jean-Loup Tournier, notre photo, sera consacré aujourd'hui à Cannes, homme de l'année, etc. Autrement dit, nous, on fait un numéro entier sur une affaire, sur un véritable scandale. Personne n'en parle, mais quand Hayage fait ce qu'il fait généralement, c'est-à-dire un coup de brio, etc. Pof, tout le monde se jette sur lui pour dire « Hayage, c'est formidable, le meilleur, spécial dernière, c'est bien ce qu'ils font. » J'ai rien contre le meilleur et spécial dernière. Mais je dis, pourquoi attribuer à Hayage ce que Minute a fait? C'est complètement fou. C'est vraiment du boycott volontaire, organisé et assassin. Donc, je ne me plains pas de ça. Je dis que nous sommes en guerre et qu'il est normal que l'ennemi utilise pour nous tuer des armes qui tuent. On ne se bat pas à coups de patates chaudes. Ce que je dis en revanche, c'est que ceux pour qui nous combattons, s'ils ne nous soutiennent pas, ben alors ça sert à rien, on va crever, et c'est ce qui se passe, on a crevé. J'avais prévenu ici, j'avais dit, il nous faut effectivement, parce qu'on avait un plan, j'avais mis au point un plan de sauvegarde du journal, de sauvetage du journal, et qui aurait très bien pu marcher, qui supposait 4000 abonnements supplémentaires. C'est dérisoire. Cette radio, cette émission est écoutée, je ne sais pas, par des dizaines de milliers de personnes, peut-être par 100 000 personnes, peut-être 200 000, je n'en sais rien. Je ne connais pas du tout le nombre des auditeurs. Peut-être 30 000, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que lançant un appel de cette nature, je me disais, normalement, on devrait avoir quelques dizaines d'abonnements, quelques, voire même une centaine, peut-être plus. On en a eu 4. Et les gens viennent me voir après en me disant, vous savez, je ne m'abonne pas parce que je préfère acheter Minute au numéro. Ben oui, c'est très bien, seulement c'est de l'argent perdu. Pour nous et pour vous. Parce que si vous achetez Minute au numéro, eh bien vous engraissez les NMPP et pas le journal. Et nous, ça nous oblige à être présents dans les kiosques. Alors je vais vous donner une explication. Pour être présent dans les kiosques, il faut tirer à 80 000 exemplaires. On a 10 000 abonnés. Donc on tire à 90 000, on sert 10 000 abonnés, il reste 80 000 exemplaires qu'on envoie dans les kiosques. Le prix de fabrication de l'exemplaire, disons pour simplifier, en gros c'est 3 francs. Donc il y a 240 000 francs qui partent dans les kiosques. Sur ces 240 000 francs, il y en a 20 000 ou 30 000, enfin pardon, sur ces 80 000 exemplaires, il y en a 30 000 qui sont vendus. 30 000 exemplaires à 10 francs, puisque c'est ce qui nous revient, ça fait 300 000 francs. Autrement dit, on dépense 240 000 francs. Pour gagner 300 000 francs, sur lesquels il va falloir reprendre tous les frais supplémentaires de retour de vieux d'invendus, etc., etc. Ce qui fait qu'on perd de l'argent. Alors j'avais dit, abonnez-vous, au moins on ne perdra pas d'argent et vous vous en économiserez puisque l'abonnement de 500 francs vous permet d'avoir 50 numéros à 20 francs. Donc c'est exactement moitié prix. Eh bien, ça n'a pas marché. Alors je ne fais pas de reproche, je dis simplement, ça veut dire que nos concitoyens ne comprennent pas une chose, qui est une évidence pourtant, mais qu'ils ne veulent pas se mettre dans la tête, c'est qu'un journal est un produit commercial. Quand on achète un journal, on achète ce qu'on paye. Et on a ce qu'on a payé. Vous ne pouvez pas espérer avoir un journal honnête quand il est vendu à la moitié de son prix. Ça veut dire que vous n'achetez pas un journal, vous achetez quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre. Le journal appartient à celui qui l'a payé, c'est-à-dire aux annonceurs. Et ça veut dire que quand un annonceur dit à un directeur de journal « Je ne veux pas que vous publiez telle information parce qu'elle me gêne », le directeur du journal dira « Moi, vous comprenez, je préfère tromper mes lecteurs que me fâcher avec mes annonceurs parce que mes lecteurs, d'abord, ils ne sauront jamais que je les ai trompés, tandis que l'annonceur, et il continuera à m'acheter, tandis que l'annonceur, il saura très bien que je me suis fâché avec lui et il cessera de publier de la publicité chez nous. » C'est ainsi, par exemple, je crois que j'ai aussi raconté cette anecdote, que un grand hebdomadaire d'images français avait publié une photo de Jean-Marie Le Pen, dans laquelle, pour une fois, on lui avait pas mis des moustaches et une mèche. Et un des plus principaux annonceurs de ce journal a dit au directeur de cet hebdomadaire, « Eh bien, monsieur, en publiant cette photo, vous venez de perdre 7 milliards, 70 millions de francs. Parce que j'avais prévu un budget de publicité sur votre journal de 70 millions de francs, mais comme vous faites de la publicité à Le Pen, moi je retire mon fric. » Eh bien, quelques temps après, quand il a été question de publier dans cet hebdomadaire les photos du mariage d'une des filles de Jean-Marie Le Pen, le directeur de l'hebdomadaire a dit « Il n'en est pas question. » Je ne croyais quand même pas que je vais publier des photos qui vont me coûter du fric en publicité. Alors ça n'a aucune importance, on peut parfaitement vivre jusqu'à la fin de ses jours sans avoir vu dans cet hebdomadaire d'images les photos du mariage d'une des filles de Jean-Marie Le Pen. Moi personnellement je crois que j'y survivrai, mais le principe est là, ça veut dire que c'est l'annonceur qui commande, qui décide et qui dit... Non, ça vous le publierez pas, et ça vous allez le publier. Alors dans ces conditions-là, il ne faut pas s'étonner de voir dans toute la presse les mêmes informations répétées, il ne faut pas s'étonner de voir que toute la presse est unanime pour dire que le grand homme de l'année c'est M. Kouchner, que tout le monde adore l'abbé Pierre, que tout le monde trouve Anne Sinclair extraordinaire, que Mme Simone Veil est pratiquement Minerve et Jeanne d'Arc réincarnée, il ne faut pas s'étonner. Parce que les mots d'ordre, ils tombent comme ça. On dit, monsieur, je suis, moi, le propriétaire de votre journal. Parce que je suis désolé, quand on donne un milliard de publicités par an à un journal, on est le propriétaire du journal. Parce que si à la fin de l'année, on dit l'année prochaine, le milliard, vous l'aurez pas, eh bien, le journal est mort. Et moi, j'ai toujours su que dans la presse, il y avait un principe fondamental qui était qui paye commande. Alors, nous, à Minute, c'était nos lecteurs qui payaient, mais pas assez, hélas. D'autres journaux, c'est l'annonceur qui paye. Quand vous achetez chez journaux, vous n'avez pas l'opinion des journalistes, vous avez l'opinion des annonceurs. Et comme ces annonceurs ne sont même pas eux-mêmes directement en prise avec le journal, mais agissent par l'intermédiaire de centrales d'achat d'espace qui appartiennent à 3 ou 4 personnes en France, pas plus. Il y a au maximum en France 10 personnes qui contrôlent la totalité du marché publicitaire de la presse, c'est-à-dire des chiffres d'affaires qui sont gigantesques. Je vous ai donné les montants tout à l'heure, mais si vous faites le total entre les 50 premiers, le total des 50 premiers journaux, je vous ai dit que le premier c'était TF1 avec 7 milliards 766 400 000 francs de publicité par an pour l'année 91. Et le dernier des 50 c'était Les Loisirs avec 172 millions 700 000 francs. Vous faites le total, c'est absolument phénoménal le fric que ça représente. Et c'est contrôlé par une main de personne, deux mains de personnes. Alors le pouvoir de ces gens-là, de qui le tiennent-ils? Qu'est-ce qu'ils en font? Qui peut le contrôler et où est le contre-pouvoir? Si ça n'est pas vous qui exercez ce contre-pouvoir en achetant les journaux, personne ne le fera. En achetant les journaux sans publicité, personne ne le fera. Et vous aurez une information qui aura été dictée par ces 10 personnes. Voilà, voilà l'affaire, toute l'affaire de... Enfin, toute l'affaire, pas toute l'affaire, mais voilà quelques vérités qu'il faut savoir sur la réalité de la presse en France. Alors, pour le reste, donc, moi, je suis quitté par Minute, et j'ai l'intention de poursuivre le combat que j'ai mené pendant 3 ans. Je vais donc mettre sur pied avec une équipe qui sera constituée, d'ailleurs, de la plupart des éléments de l'ancienne équipe de Minute la France, je vais envisager de créer un hebdomadaire qui sera vendu exclusivement par abonnement, parce que je veux pas donner d'argent à un MPP, et qui ne sera dans lequel il n'y aura strictement aucune publicité, sauf publicité pour des livres de la famille, des disques, des cassettes et des objets de culture, du matériel de culture. Je vais lancer cette idée. Si vous êtes sensible à ce projet, ben c'est très simple, vous m'envoyez un mot en me disant bah oui, on vous soutient, ça paraît une bonne idée, on est d'accord, on s'abonnera éventuellement. J'ai besoin de savoir où je mets les pieds en quelque sorte, si ça correspond réellement à un besoin de la famille. Moi je le crois, ça n'existe pas à l'heure actuelle dans la famille. Il y a beaucoup de journaux qui existent, mais qui ne mettent pas en avant cet aspect de notre vie, qui à mon avis est primordial, c'est-à-dire l'aspect civilisation. Voilà, on en reparlera. J'ai été très long, mais je crois que j'avais droit à un petit tombeau, comme on disait dans le temps, n'est-ce pas, André?
Oui.
On va écouter un tout petit peu de musique, si vous voulez, parce que j'ai reçu, une espèce de Père Noël est passé au journal et a déposé un disque qui me paraît intéressant, parce que d'abord, la pianiste est ravissante, elle s'appelle Françoise de Mullier, vous me direz que ravissante ou pas, ça n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui est intéressant, c'est de savoir si elle joue bien du piano. Et elle joue Chopin, Liszt et Rachmaninoff. On va écouter le premier morceau du disque, puis on verra bien. Je crois que c'est un nocturne de Chopin, si je ne m'abuse, non? Ou si c'est pas un nocturne de Chopin, c'est peut-être un petit morceau de Liszt. Mais non, c'est justement les cloches de Genève de l'ami Franz Liszt. Un court extrait des cloches de Genève de Franz Liszt. Voilà une dame qui sait jouer du piano, indiscutablement. Je crois que... Alors, c'est un disque qu'on peut se procurer, je sais pas où. Et voilà, comme ça, c'est parfait. Il n'y a pas du tout d'indication. Peut-être qu'on me le fera savoir. Je sais pas. On verra ça tout à l'heure. Mon cher André, merci d'être parmi nous ce soir. Alors, je vous laisse la parole. Écoutez, vous allez nous raconter cette petite anecdote qui illustre les mœurs politiques françaises.
Voilà, et qui l'illustre sur un exemple modeste, puisqu'il s'agit d'une ville assez petite, qui est Romorantin, en Sologne. 18 000 habitants, c'est pas considérable, et c'est une ville qui se trouve dans la même situation que la quasi-totalité des communes françaises, dont je ne sais d'ailleurs pas comment elles sortiront, c'est-à-dire endettées. Puisqu'à la fin 91, l'endettement de Romorantin était de 117 millions, ce qui représentait par habitant, compris les enfants au maillot et les vieillards à l'hospice, 6 433 francs de dette proprement dite et 3260 francs de garantie d'emprunt. C'est-à-dire que chaque habitant de Romorantin, les 18 000 habitants de Romorantin, doivent chacun 1 million de centimes. Cette situation étant très difficile, la Caisse des dépôts, qui est le grand créancier des villes, avait proposé en janvier 87 un rééchelonnement de cette dette. Et l'affaire était pratiquement bouclée lorsque le maire de Romorantin, qui s'appelle Jany Lorgeot, dont j'ignorais jusqu'à présent l'existence, je l'avoue humblement, et il est pourtant aussi député socialiste, monsieur Lorgeot, par l'intermédiaire d'un nommé Magistrello, que nous allons retrouver longuement, cherche à obtenir une solution meilleure que celle que lui propose la Caisse des dépôts. Et Magistrello lui dit, mais j'ai un cabinet qui s'appelle cabinet Perrin, qui va vous arranger ça d'une manière épatante. Alors, le maire de Romorantin charge le cabinet Perrin de revoir la question de la dette, et au bout de peu de temps, le cabinet Perrin revient en lui disant, ben voilà, je vous ai réglé votre affaire. Il lui apporte un projet qui est exactement ce que la Caisse des dépôts avait déjà proposé. Il n'y a aucun changement, donc la ville n'y gagne rien, mais en revanche, elle y perd quelque chose, puisque pour avoir obtenu ce qui était déjà obtenu, le cabinet Perrin présente une facture de 2 249 000 34 francs 18 centimes. C'est très précis. Bien, alors, la ville paye cette commission, honnêtement, et le cabinet Perrin reverse à M. Magistrello 1 067 400 francs pour lui avoir procuré cette commande et ce travail et cette rémunération. Ce M. Magistrello, qui vient donc de toucher, de gagner un gros million sans se donner énormément de mal, c'est assez commode à Romorantin de gagner de l'argent. Si vous avez maintenant un peu de temps libre, vous pourriez aller voir.
Je vais faire un tour à Romorantin.
Puisque avec un coup de téléphone, on gagne 1 million. C'est pas mal, 1 million lourd, bien entendu. Pour honoraires commerciaux de prospection et de présentation de clientèle mis en rapport jusqu'à la concrétisation. Voilà. Ça vaut 1 047 400 francs. Alors, une fois cette
même
belle...
Roger qui en a vu d'autres, qui est quand même un peu éberlué.
Une fois cette belle affaire réglée, monsieur Charles Magistrello va pas en rester là, et il dit au maire, eh bien, moi, je vais construire un bel hôtel à Romorantin, vous avez pas assez d'hôtels, Romorantin est au centre d'une région de chasse, on va faire un autre.
Finement,
mais seulement, j'ai pas un rond pour faire l'hôtel, alors il faut que j'emprunte. Et je vais emprunter la totalité du devis. Où je vais emprunter même un peu plus, parce que, pour être sûr, il emprunte 201 millions, je crois, quelque chose comme ça. Ce qui est très rare, qu'on emprunte la totalité d'une somme. En général, on a déjà quelque chose, ce qui donne un peu plus confiance aux prêteurs. Ce qui va donner confiance à certains prêteurs extérieurs, c'est que la ville de Romorantin accepte de se porter garante pour le maximum qu'elle a le droit de faire, c'est-à-dire la moitié de la somme. En l'occurrence, environ 12 millions. Elle donne sa garantie à une banque suisse qui veut bien prêter. Mais il reste l'autre somme équivalente, et les autres prêteurs disent c'est très gentil, mais il y a la garantie de la ville pour la moitié, mais pour notre moitié à nous, il nous faut une créance hypothécaire. Alors, la créance hypothécaire ne pouvant pas porter sur la totalité du prêt, puisque ce prêt recouvre la totalité des frais, la ville de Romorantin renonce à prendre une hypothèque. Bien. Cependant, Magistrello, qui a obtenu ce prêt alors que sa société n'est même pas encore immatriculée au tribunal de commerce, au registre du commerce, il va tout de même donner encore une hypothèque sur son futur hôtel à un autre prêteur de façon à obtenir des crédits pour faire un autre hôtel ailleurs. Bien. Mais son hôtel va se construire. Il va déjà verser, à son tour, il va reverser 355 800 francs au cabinet Perrin comme commission d'apport d'affaires et pour présentation des compétences locales. Alors c'est lui qui venait de toucher 1 million pour avoir présenté le maire au cabinet Perrin. Maintenant il redonne 355 000 francs au cabinet Perrin pour lui avoir présenté les compétences locales. Enfin voyez l'embrouille. Bien. Et tout ça, toujours avant l'enregistrement.
Vous connaissez cette musique? C'est ça?
Non.
C'est une jolie chanson, ça s'appelle L'Arnaque.
Ah oui.
Ça n'a rien à voir d'ailleurs, ma face.
Et oui, ce que je me rappelle, c'est que Pagnol avait écrit Topaz autrefois, et il y aurait de nombreuses occasions de ressortir cette pièce. Ah oui. Alors, pour construire l'hôtel, Monsieur Magistrello a besoin d'informations et d'études. Et il va payer 6 600 000 francs de frais d'études à des sociétés dont il est le gérant. Toujours sur la somme qui lui a été prêtée. Et voilà, d'autre part, alors la construction proprement dite de l'hôtel coûte 10 millions, c'est-à-dire que l'hôtel revient, avec toutes les études qui ont été nécessaires, parce que ça devait être très compliqué, à 16 600 000 francs. Et puis cet hôtel, une fois ouvert, ben, il ne voit pas venir beaucoup de clients, parce que Romorantin est une ville très sympathique, c'est même joli, mais ce n'est pas un grand centre de tourisme, de sorte que l'hôtel ne marche pas. Et que M. Magistrello, en décembre 90, va déposer d'un seul coup le bilan des 17 sociétés dont il est gérant et dont certaines viennent de recevoir des honoraires de frais d'études. Alors, l'hôtel, le fameux hôtel ferme et naturellement les créanciers le mettent en vente aux enchères pour essayer de récupérer leur argent puisque ceux qui ont une hypothèque notamment. Et l'hôtel qui a coûté avec les frais d'études, 16 600 000 francs, et finalement être jugé, 3 millions et demi. Ce qui fait que la ville, elle ne verra rien du tout de sa garantie, car naturellement, le créancier suisse lui a dit « Vous voudrez bien maintenant honorer votre garantie, puisqu'il n'y a plus d'argent. » Donc il a fallu que les 12 millions qu'elle avait garantis, elle les rembourse. Si vous y ajoutez les 2 millions et quelques qu'elle avait payés au cabinet Perrin pour faire rééchelonner une dette qu'il était déjà, ça fait à peu près 15 millions qui sont partis dans la nature. Alors, je suppose qu'ils n'ont pas été perdus pour tout le monde, mais je ne sais pas pour qui ils ont été gagnés. Et ne croyez pas que se racontant, j'invente ou que je prête l'oreille à des rumeurs malveillantes, tout ceci, je l'ai trouvé dans un rapport signé Pascal Duchadeuil. Qui est Pascal Duchadeuil? C'est un conseiller référendaire à la Cour des comptes qui est président de la Chambre des comptes de la région Centre. Par conséquent, le document qui est daté du 26 novembre 92 est irréfutable. Et il m'a été apporté, parce que je dois dire les choses comme elles sont, il m'a été apporté par un monsieur Richard, qui est conseiller municipal de Milancet. Milancet est une toute petite commune rurale aux environs de Romorantin. Et ce monsieur Richard a décidé de faire à l'égard du nommé Lorgeau ce qu'un monsieur Dominici a fait à l'égard de monsieur Boucheron à Angoulême. Et il vient de saisir le doyen des juges d'instruction de Blois, le 8 janvier dernier, d'une plainte contre le maire de Romorantin pour dilapidation de fonds publics. Et pourquoi m'a-t-il apporté à moi ce dossier, raconter cette affaire? Eh bien, c'est parce que, je ne sais pas si vous croyez vous l'avoir dit, je suis président de la Fédération Nationale des Contribuables, dont je précise au passage que le secrétariat est 262 rue Mandron à Bordeaux, si on veut joindre. Et je pense qu'en effet, il y a une remarque à faire, c'est que dans cette histoire, il y a eu manifestement enrichissement sans cause. Je ne veux pas savoir de qui, mais étant donné que ces sommes ont passé de cette manière, il y a évidemment eu enrichissement sans cause. Il y a eu très probablement aussi évasion d'impôts. Or, autant que je sache, on n'a pas vu les services fiscaux surgir, se manifester. Je crois que dans ce même département de Loire-et-Cher, On a récemment expulsé et vendu une malheureuse vieille épicière qui tenait pas très bien la comptabilité de ses cacahuètes.
Bon. On n'a pas vendu l'épicière.
La pauvre
épicière.
Mais non, mais ça s'appelle, ça se dit en langage juridique, vendre quelqu'un.
Mais je vous taquine.
C'est-à-dire vendre ses biens. Alors cette pauvre vieille femme, on l'a mise à la porte de chez elle. Et puis, alors qu'elle offrait le café tous les jours, malencontreusement à l'inspectrice qui venait faire ses comptes, et il est probable que l'inspectrice a dû compter que ces tasses de café n'étaient pas entrées dans la comptabilité, qu'elle aurait dû payer de la TVA sur elle-même. Vous savez comment ça se goupille. Alors, il y a donc là, évidemment, une fois de plus, une carence des services fiscaux que je retrouve en de très nombreuses occasions dans tous les scandales. C'est ou bien la police judiciaire, les services financiers de la police judiciaire, ou bien la magistrature qui sortent toutes ces affaires, ou bien des gens privés comme M. Dominici et M. Richard qui prennent l'initiative d'une plainte, mais les services fiscaux qui devraient essentiellement se dire « Mais enfin, comment ces gens-là manipulent-ils tant d'argent ? Et d'où ça vient ?» Les services fiscaux n'ont pas l'air de s'y intéresser. Ils s'intéressent encore une fois aux petits épiciers, aux petits vétérinaires, aux pauvres gens, et ils laissent tranquilles tous ces coquins qui foisonnent. Voilà, je voulais simplement donc, sans m'attarder davantage, parce que je crois que l'affaire est assez éloquente par elle-même, sans avoir besoin qu'on la commente longuement.
Non, on n'appelle aucun commentaire,
non,
ça suffit largement.
Elle est un exemple, voilà. Un exemple de plus, alors je ne sais pas si elle aura effectivement une suite. Dans ce cas-là, la Fédération des contribuables pourrait envisager de se porter partie civile, puisque les contribuables ont évidemment été lésés dans l'affaire.
Voilà. Alors la Fédération des contribuables, c'est 262 rue Mandrin.
Mandron, M-A-N-D-R-O-N.
Ça aurait été plus drôle si elle était rue Mandrin. 262 rue Mandron à Bordeaux.
33 000 Bordeaux, oui, c'est ça.
33 000. Merci André Figueras.
Voilà. Merci à...
Le tome 2 de vos mémoires...
Eh bien, le tome 2 est en cours de rédaction. Je vais parler de beaucoup de questions de presse. Je vais parler de questions... Oui, beaucoup de choses. Ce sera d'autres personnages que ceux qui sont apparus dans le premier tome, évidemment. Je parlerai aussi un peu... Ah oui, je voudrais tout de même vous dire qu'on m'a beaucoup fait remarquer... Beaucoup de gens s'attendaient à ce que dans ce premier volume, je parle de la Résistance. J'en ai pas parlé. Je vais parler de choses plus récentes. Là, je vais y revenir, non pas du tout pour me faire moucher ni me faire prendre pour un héros, que je n'ai point été. Je vais simplement raconter 3 ou 4 fois... où j'ai mis mes jours en danger pour sauver des juifs, avec toutes les précisions nécessaires, afin qu'on me foute la paix. Au revoir.
Merci André, et bonne soirée. Voilà, c'était le... Moi j'aime bien quand André Figueras vient, parce que d'abord il a une voix, il a une présence, puis il a une façon de raconter des histoires. Il aurait fait un conteur extraordinaire il y a un siècle, on serait mis au coin du feu, on l'aurait écouté, d'ailleurs il le fait toujours, mais là on n'est plus au coin du feu, on est autour du micro. Alors, je remercie tous les auditeurs qui ont téléphoné pour témoigner leur sympathie, c'est très très gentil. Et alors, il y a quelques questions. Alors, une auditrice dit, je rappelle que Radio Courtoisie ne vit que des cotisations de ses auditeurs et non pas de publicité et que ça lui permet de le rester libre. C'est une auditrice. Si ça avait été un auditeur, j'aurais dit c'est Jean Furet. Mais comme c'est une auditrice... Alors, oui, bien sûr. Hein, simplement, il y a une toute petite différence, madame, entre Radio Courtoisie et un journal. C'est que Radio Courtoisie, tout le monde est bénévole. C'est tout. Il n'y a pas de salaire à verser. Tandis que dans un journal, il faut payer les salaires. D'autre part, Radio Courtoisie n'a pas acheté de papier, n'a pas payé d'imprimeur. Et à l'échelle financière d'une radio réalisée entièrement par des bénévoles n'est évidemment pas celle d'un journal. Et alors j'ajoute que si Minute avait eu autant d'abonnés que Radio Courtoisie a d'adhérents, eh ben la question que j'évoquais tout à l'heure ne se serait jamais posée. Jamais. C'est-à-dire que le journal aurait vécu dans un état de véritable prospérité. Parce qu'on avait 10 000 abonnés à 500 francs. Et j'imagine que Radio Courtoisie, je connais pas le chiffre des adhérents de Radio Courtoisie, mais j'imagine qu'on a beaucoup plus de 10 000 abonnés à 200 francs. Donc, ou à 250 francs, c'est la nouvelle cotisation, c'est... 250 francs. Ça me vient l'approche que j'écoute mal. Hein. J'ai honte d'ailleurs. La comparaison ne vaut pas. Elle vaut sur un point précis. C'est vrai que l'absence de publicité est une garantie de liberté. D'où viennent ces masses d'argent de la publicité, puisqu'on dit qu'il y a de l'argent, qu'il n'y a d'argent nulle part pour faire quoi que ce soit? Il y a une auditrice qui pose cette question, et puis un auditeur qui apporte la réponse, qui dit: mais la publicité est déductible des bénéfices d'une société, le bénéfice est donc moins important, l'impôt est donc moins important, la recette est moindre pour l'État, et c'est le contribuable lambda qui fait la différence. Ben c'est vrai, c'est évident, c'est-à-dire que tout l'investissement publicitaire est contrebalancé par des baisses de recettes fiscales. Enfin, ça, c'est un petit peu compliqué, parce qu'on pourrait dire aussi que ça fait travailler les agences de publicité qui payent des impôts. Les coupables sont les kiosquiers et les marchands qui dissimulent les journaux et ne les exposent pas. C'est vrai, mais pas complètement. C'est-à-dire que un journal, il est exposé à partir du moment où sa vente représente un avantage pour le kiosquier. Le kiosquier, c'est un commerçant. Il va pas occuper une partie de son étalage avec un produit dont il sait qu'il ne le vendra pas. Et quand il reçoit deux ou trois exemplaires de Minute La France parce que on n'a pas les moyens de faire mieux, il va pas faire un tas de deux ou trois exemplaires. Donc il le met quelque part derrière son comptoir, et il faut que les gens le demandent. Or, ainsi qu'on va le voir dans plusieurs lettres, plusieurs appels qui suivent, les lecteurs ont peur de Minute, ont peur de réclamer Minute. Il y a une auditrice qui dit l'idée de l'abonnement n'est pas une bonne chose, le courrier étant remis au gardien d'immeuble, il en résulte des désagréments. C'est un auditeur qui dit ça. Un autre auditeur nous dit qu'il ne veut pas recevoir Minute par correspondance parce qu'il a peur que ses voisins le sachent. C'est quand même pas un journal pornographique, faut pas exagérer. C'est un journal politique, c'est vrai, d'information politique et qui appartient à la droite. Mais enfin, si on a honte de mener ce combat, il faut arrêter tout de suite. Si on a honte de nos idées, il faut changer d'idée. Ça, c'est aussi simple que ça. Hein. Une auditrice téléphone pour nous dire qu'elle a travaillé 7 ans dans une agence de publicité parisienne et qu'elle s'est vue licenciée voilà 2 ans en raison de ses positions politiques et religieuses et que depuis elle reste au chômage. C'est la confirmation de ce que j'expliquais tout à l'heure. Et puis alors plusieurs auditeurs me demandent de donner les coordonnées de la publication à naître. C'est un peu tôt. Attendez que l'enfant soit venu au monde, on donnera son prénom, son adresse et vous pourrez lui envoyer une timbale. Voilà, pour le baptême. Beaucoup d'appels. Je remercie encore une fois tous les auditeurs qui téléphonent pour dire leur sympathie, leur amitié. Et ça fait plaisir. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, alors ça c'est effectivement Philippe qui fait remarquer que la publicité provoque une augmentation des ventes, donc un chiffre d'affaires supplémentaire, donc une DVA payée, etc. C'est très compliqué l'histoire de la fiscalité de la presse et de la publicité. Alors on va pas rentrer là-dedans parce que ça mériterait un trop long débat et qui serait pas forcément passionnant. Mon cher docteur Dor, bonsoir.
Bonsoir, monsieur Beckett.
Alors donc vous êtes quelqu'un dans SOS tout petit. Alors quel est votre titre pour qu'on en finisse avec ces mystères?
Tout simplement, je suis enfin celui qui a fondé SOS tout petit il y a un peu plus de 6 ans. Je suis à la Pitié Salpêtrière.
Vous êtes obstétricien
Non, pas du tout. Enfin, je m'occupe d'anatomie et d'organogénèse et plus spécialement d'embryologie cardiaque à la Pitié.
Ah,
ceci depuis déjà une vingtaine d'années. Mais est-ce que c'est à cause de ça? Non. J'avoue que j'étais pédiatre en Afrique assez longtemps, et au fond j'ai toujours beaucoup aimé les petits et pensé qu'ils pouvaient disparaître comme ça sans crier gare. Si la fondation de S tout petit a vu le jour, c'est que j'étais dans le désespoir. Le désespoir de quoi? Un petit peu au fond ce dont vous parliez tout à l'heure, à savoir que il y avait sur cette disparition des petits un silence quasi tombale, enfin digne d'une pierre tombale, et un peu comme on voudrait mettre la presse, enfin qui nous soutient, sous le boisseau, enfin à l'écart. Eh bien voilà, on a voulu faire un peu parler de nous et être un petit peu la voix des petits qui disparaissaient sans les traces.
Alors quelle est l'histoire de la naissance de SOS tout petit?
Alors donc on a eu cette idée, et j'avoue que depuis un certain temps je pensais, d'ailleurs je regrette d'avoir commencé si tard. On a commencé finalement en fin octobre 86, c'est déjà un petit peu vieux, mais on aurait pu commencer plus tôt, la loi de Veil est de 75, et je me souviens de garçons une fille très courageuse du MJCF qui avait occupé, je crois me rappeler, est-ce que c'était en janvier-février, ils avaient occupé l'Hôtel Dieu, le centre d'avortement de l'Hôtel Dieu, à côté de la préfecture de police. Et ils avaient été sortis avec perte et fracas, ils s'étaient plus ou moins attachés, je ne sais pas. Et parmi ces personnes, il y avait une jeune femme que j'ai connue après, une jeune femme charmante d'ailleurs, la femme des chirurgiens, qui avait ceci de particulier, c'est qu'elle avait une très grande natte. Et alors elle nous a dit, vous savez, cette natte a une histoire, quand on a fait sa connaissance, cette natte a une histoire parce qu'on m'a tiré par la natte. elle a franchi les couloirs, tirée par les policiers par sa natte. Et donc, si vous voulez, cette idée d'occuper les centres d'avortement nous avait été donnée donc par les garçons et filles du MJCF qui ont dû faire ça une ou deux fois. J'avoue, je ne me souviens pas exactement. Et puis aussi donc ce silence oppressant et puis évidemment ce goût, cet amour finalement que nous avions pour ces petits innocents. Et donc nous avons cherché à nous entourer de différentes personnes, et ce n'est pas facile de commencer. Finalement, une jeune femme nous a rejoint, elle était très courageuse, une infirmière, Françoise Robin, et elle avait résisté à endormir elle travaillait en clinique à Bagnolet, dans le lieu de Paris, et elle avait refusé un beau jour d'endormir des femmes qui subissaient un avortement. Alors ça fait un esclandre, elle a eu une quarantaine épouvantable. Quand elle arrivait dans le service, on lui lançait des brancards dans les jambes, personne ne lui parlait. Elle était au bord de la dépression, ça a duré 2 mois. Alors, elle a été très courageuse, elle a tenu, très aidée religieusement, elle priait beaucoup, elle a été très soutenue par le clergé, très courageuse. Finalement, alors il y a eu l'histoire de procès, et finalement elle a fini par gagner un procès, elle a été licenciée avec une très belle prime de licenciement. Finalement, son courage, je dirais, l'a illustrée, l'a élevée, et finalement, matériellement, je dirais, lui a été bénéfique. Voilà, alors peu à peu, nous étions un certain nombre. La première fois, c'était le 10 janvier 87, nous étions à Thenon, nous étions une quarantaine, sans trop savoir ce qu'on allait faire d'ailleurs, parce que c'était assez nouveau. On était dans le hall, on a plus ou moins bien fait ce qu'il fallait faire, on ne sait pas, on a essayé de promener un petit peu dans les couloirs. Et bon, c'était la première fois, nous étions déjà les banderoles à l'époque. Et maintenant, nous avons peut-être pas tout à fait fait la même façon, mais voilà ce que nous faisons actuellement. Nous entrons dans un... Tout d'abord, pardonnez-moi, nous sommes un mouvement confessionnel. Nous sommes consacrés au Sacré-Cœur, à la Sainte Vierge et à Saint-Joseph. Et nous avons pour habitude de nous réunir un jour de semaine ou un samedi. Le samedi, c'est plus facile, il y a plus de monde, c'est un jour où les gens ne travaillent pas en général, donc ils sont mobilisables. Alors, nous allons à une messe, en général, c'est la médaille miraculeuse, à 8h du matin. Et après la messe, nous nous retrouvons, et puis après, c'est le départ à 8h40. Il est bien entendu que personne ne connaît la destination finale de l'endroit où nous allons, parce que nous aurions dû... D'ailleurs, c'est arrivé, nous avons eu quelqu'un qui s'est infiltré, c'est une histoire terrible. Mais en principe, donc, c'est même tout à fait tenu secret. Nous arrivons et nous, dans le hall, nous disons tout simplement, voilà, nous savons qu'il y a des avortements dans cette clinique ou dans ce service, et nous venons porter secours à ces petits. Nous nous installons ici très pacifiquement. Nous installons une icône avec une femme et un enfant, l'image de la faiblesse, de la tendresse. Nous prions autour, mais de façon assez calme, assez douce. On ne veut pas effrayer tout le monde, mais nous sommes présents. À l'extérieur, il y a des personnes qui, enfin des militants qui distribuent des tracts. Nous avons nos banderoles. Les gens disent, qu'est-ce qui se passe? Ah bon, par exemple. Ah, je ne savais pas. Alors souvent, ce sont d'ailleurs des réflexions sympathiques. Alors on raconte un petit peu ce que nous essayons de faire. Et voilà. Donc vous voyez que nous sommes très pacifiques, que nous sommes confessionnels, nous sommes tous catholiques. Ce qui n'empêcherait pas d'ailleurs des protestants de venir. On les écarte pas du tout, contre eux ou d'autres, des juifs même, des francs-maçons ou des athées, ils peuvent venir, mais à condition de respecter la règle du jeu, bien entendu.
Donc, vous n'êtes pas sectaire?
Non, on n'est pas sectaire, franchement pas. Nous sommes confessionnels, mais pas sectaires. Ça, franchement.
Alors, c'est une façon de répondre à une auditrice qui vous pose une question que je vous transmets. Pourquoi, lors de vos prestations télévisées, acceptez-vous toujours de répondre... Pardon, je lis mal. Évitez-vous toujours de répondre aux questions vous demandant votre opinion sur la contraception?
Non, jamais.
Non, je lis. Le mot est très mal écrit. Alors, on peut lire soit accepter, soit éviter. Alors, c'est peut-être quand même accepter, vous, de
répondre à la question. Nous n'évitons pas du tout le débat. Notre grand problème, c'est l'avortement, bien entendu. Mais la contraception, nous avons toujours pensé que c'est triché. La contraception avec les pilules, le moyen chimique, nous pensons que c'est triché. Que le seul moyen, c'est d'être maître de soi. La contraception, c'est un laxisme. Nous n'avons rien à cacher.
Alors, et cette éditrice ajoute, l'avortement n'est pas une question de morale, mais d'ordre public, et la lutte pour la vie ne saurait être considérée comme la propriété d'une poignée de catholiques intégristes. Alors j'ajouterais que c'est pas les catholiques intégristes, parce que le pape lui-même est contre l'avortement, et pour autant que je sache, sauf changement récent, peut-être cet après-midi, mais j'ai pas été informé, le pape n'est pas intégriste.
Alors, je voudrais dire ceci. L'avortement est un crime. De quelque façon qu'on le considère, c'est un crime. Ça, je dirais, personne finalement ne peut refuser ça. Parce que même ceux qui disent que l'embryon n'est pas vraiment un être humain, tout ça, je pose cette question à ces personnes qui disent l'embryon n'est pas un être humain ou ce n'est pas une personne. Mais je dirais, si ce n'est pas un être humain, mais pourquoi avorter? Pourquoi prendre tant de peine? Pourquoi prendre le RU? Pourquoi aller dans les... Si c'est un petit papillon, un crustacé, mais je vois pas pourquoi prendre tant de... Vous voyez? Enfin, c'est un crime. Pourquoi? Parce que c'est un être humain, que cet être humain est à l'image de Dieu, n'est-ce pas, et doit être respecté. Et nous pensons que une loi qui permet de tuer un petit est une loi criminelle. Mais ça, loi Veil, c'est un droit au crime.
Docteur Dor, cette auditrice vous répétera ce qu'elle vient de vous dire. C'est-à-dire que quand vous dites l'embryon est un être humain, jusque là, on n'est pas du tout obligé d'être croyant pour vous suivre, mais quand vous dites il est à l'image de Dieu, c'est bien une déclaration qui est dictée par votre foi catholique.
Oui, c'est vrai. Mais comment dire, il y a aussi le plan naturel. Je dirais, comment une mère, n'est-ce pas, ça rappelle un peu Marie-Antoinette, j'en rappelle à toutes les mères, une mère qui considère que moins que rien le petit qu'elle abrite en elle, n'est-ce pas, je dirais, est-ce que c'est encore une mère? Est-ce qu'elle mérite ce nom-là, même sur le plan naturel? Alors sur le plan naturel, a fortiori, quand l'homme a, je dirais, est fait pour la divinité, ça lui donne évidemment une élévation encore plus grande. Mais déjà sur le plan naturel, il a, je dirais, un prestige, une dignité très grande. N'est-ce pas? Et alors on dit quelquefois, mais ce sont des l'avortement, c'est une affaire personnelle, mais c'est une erreur complète. Il faut s'entendre. Personnel, bien entendu, il y a une personne qui est intéressée, et d'abord le petit bonhomme. Ensuite, c'est la mère qui l'abrite, mais c'est aussi le père qui est là pour moitié. Et puis c'est aussi la grand-mère. Moi, je me souviens avoir distribué des tracts dans la rue et avoir donné des tracts contre l'avortement. La femme s'en est aperçue, une femme qui n'était pas toute jeune, et personne n'arrivait à l'arrêter. Elle criait, ils ont tué mon petit-fils, ils ont tué mon petit-fils. Alors non seulement il y a la détresse des mères, des pères, mais encore des grands-parents. Et puis la société. On peut compter que depuis la loi Veil, il y a environ 6 millions de morts. Il n'y a pas de crime plus important, de massacre plus important dans l'histoire de France que celui de l'avortement. Depuis 1975, on a tué environ 6 millions d'enfants. Mais vous me direz, ce chiffre n'est pas exact, parce que on compte actuellement 170 000 à peu près, 180 000 par an, bon an, mal an, enfin si je puis dire, 150 000 depuis, je crois que les statistiques les plus fiables peut-être remontent à, je veux dire des bêtises, peut-être vers 78, tout ça. Alors, on arrive à un total peut-être environ de 2 à 3 millions de... Là, alors certains, parce qu'ils ont été recensés. Mais on sait très bien que les avortements sont beaucoup plus importants que ceux qui sont recensés. Ce sont ceux qui font les avortements nous le disent eux-mêmes. Ils font des curetages, ils font des... Alors, ça passe sous le nom de curetage, c'est très facile. Je me souviens, nous étions dans une clinique, nous étions à Belfond, la clinique de Belfond. Et là, on nous avait dit, un homme qui faisait l'avortement, oh, c'est de l'ordre de 600 000 par an. Peut-être c'était allé un peu fort. Actuellement, nous parlons actuellement, 600 000 par an. Faites le compte depuis. Donc je dirais, jamais on n'a autant tué, jamais. Et alors, une chose que je voudrais dire, peut-être la plus importante de ce que je pourrais dire ici, une chose dont je n'avais pas conscience, il y a, pourtant on se bat contre l'avortement depuis un certain temps. Je l'en crois, maintenant j'en crois mes yeux parce que je l'ai digéré, je l'ai lu il y a environ 5-6 mois. C'est une citation tirée du planning familial, l'édition, et c'est un bulletin du planning familial de juin 78, qui dit ceci. Alors là, c'est très intéressant parce qu'il ne s'agit pas de nous, de notre opinion, mais de l'opinion de nos adversaires. Et c'est ceci. La loi, c'est en gros ceci, je ne trahis pas l'esprit de la chose, j'ai le texte sous les yeux, mais c'est en gros ceci, je ne lis pas très bien, donc j'ai de la peine, mais je ne trahis pas l'esprit du texte en disant, la loi permettant la contraception et l'interruption de grossesse n'a été permise ni pour des raisons malthusiennes, comprenez démographique, ni pour des raisons malthusiennes, ni pour améliorer l'état sanitaire, incroyable, c'est-à-dire pour apporter un soutien à la femme, pour l'aider à faire un désastre, parce qu'elle va se tringler, elle va faire elle va avoir un tétanos post-abortum, un septicémie à perfringence, une embolie gazeuse, bon, elle va faire l'horreur, ça, quelquefois on sait, elle est prête à tout. Donc je reprends, si la loi permettant la contraception ou l'interruption volontaire de grossesse, la loi n'a pas été faite pour des raisons malthusiennes, ni pour améliorer l'état sanitaire, mais alors tenez-vous bien, mais pour modifier des comportements traditionnels. Et tout est là. Car le problème, ce n'est pas de porter secours à qui que ce soit, ce n'est pas pour les problèmes démographiques, ce n'est pas ça. Le problème, c'est de libérer la femme de ses complexes traditionnels, c'est-à-dire de la, mettons, de la peur qu'elle aurait à tuer son propre enfant, au sens naturel du mot, et au sens surnaturel, bien sûr. Donc, je dirais, une femme qui tue son enfant ne peut pas montrer davantage d'autonomie, davantage de liberté, davantage de libération, davantage de révolte. Elle est proprement révolutionnaire en tuant son enfant. Elle ne peut pas faire de sacrifice plus grand. En quelque sorte, nous sommes là au cœur, je dirais, des ténèbres, n'est-ce pas? Si une femme tue son enfant, elle est révolutionnaire jusqu'au fond de l'âme, n'est-ce pas? Elle donne son âme à la révolution, elle donne son âme à Satan, si vous préférez. Je crois que c'est... Et alors, ceci veut dire que, finalement, l'avortement n'est pas une affaire, je dirais, subsidiaire, une affaire périphérique. Non, c'est au cœur même. Je dirais, et vous savez que ces lois ont été faites par les francs-maçons. Ils l'ont avoué aussi, oui, décidément.
Ah ben, bien sûr.
C'est... N'est-ce pas? Et alors, c'est une chose incroyable.
C'est Pierre Simon qui a...
C'est Pierre Simon, il a dit à la télévision.
Grand maître de la grande loi.
Voilà. Et alors, je dirais, la libération de la femme, la révolution, finalement, qu'il désire, n'est-ce pas, a fait 6 millions de morts, on peut le dire, à Pierre Simon, car j'entends encore cette phrase de Rocard. Rocard est aussi au Grand-Orient, je crois. On lui posait la question en 1974. J'avais l'oreille vissée à la radio à ce moment-là. On lui disait, mais monsieur Rocard, là, êtes-vous pour ou contre l'avortement? Alors, il avait répondu, mais vous savez, un peu comme il répond. D'abord, il répond pas, puis après, il répond à toute vitesse. Alors, il dit ceci, mais je suis pour l'avortement. Et si je suis pour l'avortement, c'est par humanisme. Mais alors, monsieur Rocard, votre humanisme, il a fait 6 millions de morts. Est-ce vraiment un humanisme? La même question, je la pose à Jean Bernard, qui m'a dit exactement la même chose. J'avais été au comité d'éthique. Jean Bernard, président des comités d'éthique, maintenant ce n'est plus lui, mais enfin il l'a été pendant longtemps, n'est-ce pas? Il disait, mais c'est par humanisme. Mais qu'est-ce que c'est que cet humanisme? On l'a bien compris, c'est un humanisme athée, c'est un humanisme maçonnique. Moi j'accuse les francs-maçons d'avoir tué comme jamais personne n'a tué sur Terre. Jamais, jamais, jamais. Je le dis en toute vérité parce qu'on ne peut pas dire le contraire. Je ne vois pas quelqu'un qui puisse me contredire là-dessus. C'est pas que j'en ai forcément contre les francs-maçons. Enfin, vous comprenez-moi bien, je suis chrétien, donc je dirais les francs-maçons, ce sont mes frères, comme les communistes ou tout ce que vous voulez. Mais j'en ai à la maçonnerie. Il n'y a pas, actuellement, n'est-ce pas, les communistes sont plus, enfin, le communisme a plus ou moins disparu. Bon. Mais la maçonnerie, je dirais, elle est toujours bien présente. Elle n'a jamais été aussi présente. Et ce sont les suppôts de Satan. On ne peut pas dire autre chose. Ils sont au cœur de la révolution et l'avortement est au cœur de la révolution. Ils veulent pervertir la société, n'est-ce pas, en pervertissant la femme, c'est ce que disait Lénine. Si vous tenez la femme, vous tenez la société.
Eh bien, ça fait du bien d'entendre ça. C'est un langage qu'on n'entend pas souvent sur les chaînes de télévision et sur les ondes des stations de radio. Ça, il faut bien connaître.
Je voudrais ajouter ceci. Bill Clinton.
Celui-là, il ne fait que commencer.
Le pauvre diable. Deux jours après, il n'y a rien de plus pressé. Comme quoi l'avortement est au cœur des événements. Deux jours après son installation au pouvoir, il croit bon d'élargir encore l'avortement et de permettre, enfin, d'autoriser bientôt l'érogation au travail. Que les Américains savent, mais ils le savent sans doute, qu'il y a déjà 30 millions de morts avec, je dirais, jamais on l'a entendu. Il y a eu 250 000 morts sur le théâtre pacifique et le théâtre allemand, le théâtre européen, du côté américain. Ils ont perdu finalement pas tellement de monde. Enfin, c'est 250 000 de trop, bien entendu. Mais 250 000 hommes. Eh bien, je dirais actuellement, enfin, depuis 73, depuis la loi Roe contre Wade, eh bien, permettant l'avortement, ils ont tué 30 millions de petits Américains, de toutes les couleurs, entre parenthèses.
Il y a d'ailleurs un signe, c'est un signe, moi je crois au signe, alors je le souligne celui-là, c'est que les deux premières décisions prises par le nouveau président des États-Unis, ça a été d'une part de revenir au laxisme en matière d'assassinat des enfants, par les dispositions légales sur l'avortement, et d'autre part d'autoriser les homosexuels à être dans l'armée.
Bon, alors, je veux dire, après tout, les homosexuels dans l'armée, je crois que c'est pas plus gai pour eux que pour ceux qui les entourent, et j'ai pas l'impression que ça va être un grand progrès humain pour eux de se retrouver au milieu d'une bande de gars qui vont être au courant de leurs tendances et qui risquent de leur faire comprendre qu'ils les partagent pas. Mais est-ce qu'il y avait une urgence aussi absolue? Est-ce que le président des États-Unis, en accédant à ses fonctions, le lendemain du jour où il a prêté serment sur la Bible, car c'est ça qui se passe, il prête serment sur la Bible,
sur la Bible.
La première chose qu'il fait, alors, c'est de dire, eh ben, il faut tuer des bébés, et puis deuxièmement, il faut que les homosexuels puissent être militaires. Ou que les militaires puissent être homosexuels.
Est-ce que je peux ajouter quelque chose?
Bien sûr.
Vous me direz, mais peut-être avec les nouvelles, il y a des législatives en perspective, on peut espérer quelque chose. Après tout, la droite... Alors moi je dis, pour moi c'est une bataille de francs-maçons. Il y a autant de francs-maçons à droite, enfin à droite, entendons-nous entre guillemets, à droite qu'à gauche. Je n'ai aucun espoir. C'est Giscard d'Estaing qui a, lui de droite soi-disant, qui a lancé la loi. Et je voudrais aussi dire autre chose. Rien de plus régulier que la loi Veil. Rien de plus régulier. Et ceci m'amène, en deux mots, je ne voudrais pas être trop long, sur la Déclaration des droits de l'homme. Il n'y a rien de plus régulier que la loi Veil. C'est-à-dire que la loi a été présentée par le gouvernement, en l'occurrence M. Chirac et Mme Veil, enfin qui était ministre de la Santé. Elle a été largement votée par le président, acceptée par la Chambre, par le Sénat, ensuite acceptée par le président. Rien de plus régulier. Alors vous me direz, mais quelque chose ne va pas. Quand on tue tant de personnes, quand une loi le permet, je dirais, nous avons 6, enfin, pas 6 millions de morts légaux, il y en a 3 millions. Mais le massacre est tout à fait légal, rien de plus légal que le massacre de nos enfants. Il est même remboursé, je dirais même. Madame Roudy nous a fait cette fleur, n'est-ce pas? Elle fleurit le massacre, elle rembourse le massacre. Bon, eh bien, je dirais, mais alors, où est la paille? Quelque chose qui ne va pas? Eh bien, chercher l'article 6 ou l'article 3. Moi, je me souviens ici même, j'avoue que j'en étais extrêmement... Je buvais ces paroles. Il y avait ici Arnaud Lassus. Il parlait de l'article 3 et de l'article 6 des droits de l'homme. Et l'article 3, bon, tout principe de souveraineté réside seulement dans la nation. Mais les choses sont encore plus claires avec l'article 6. Je parle de la constitution de la déclaration des droits de l'homme des citoyens de 1789. Eh bien, l'article 6 est ceci. La loi est l'expression de la volonté générale. Donc, je dirais la loi Veil, c'est la fille des droits de l'homme. C'est la fille directe des droits de l'homme. Alors, je dirais que quelque chose ne va pas dans les droits de l'homme. Naturellement, c'est la charte des francs-maçons. Quand vous cherchez à savoir ce que disent les francs-maçons, lisez bien le texte de l'article 6 notamment. Et alors, une petite remarque aussi, vous me direz, bon, ça c'était de 89, mais maintenant, nous avons une déclaration des droits de l'homme tout à fait à la page, effectivement. Et il y en a une, c'est la plus récente, c'est de 1948, celle de l'ONU qui a été votée très largement à New York en décembre 48, c'est ça. Et alors là, lisez bien l'article 21, la linéa 3, je l'ai relu, et bien vous lirez ceci, tout à fait comme l'article 6, la volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs civils. C'est-à-dire que on revient toujours au même problème, n'est-ce pas? C'est Rousseau, c'est la volonté générale, c'est-à-dire la volonté générale, celle qu'on fait évidemment, celle que l'on a l'habileté de faire dire, n'est-ce pas, aux marionnettes finalement, mais la coulisse, et évidemment, ce sont les francs-maçons et des gens qui pensent comme eux.
Alors, il y a une question quand même qui est posée par plusieurs auditeurs, c'est la question de cette fameuse loi créant un délit d'entrave à l'avortement qui a été votée récemment. Qu'en pensez-vous? Comment réagissez-vous?
Alors évidemment, ça, je dirais que ça fait un peu sourire. Ça fait un peu grotesque. Je ne sais pas si vous... Enfin, moi j'appartiens au ministère, parce que je suis fonctionnaire, j'appartiens au ministère de la Santé et de l'Action Humanitaire. Et c'est assez cocasse, incroyable, de penser que ce double ministère, en quelque sorte, eh bien, assure, je crois avoir fait le compte, 66% des avortements officiels. C'est-à-dire que quand 170 000 enfants périssent chaque année en France, officiels, à peu près, 170 000 à 40 000, eh bien, 66% de ceux-là, c'est-à-dire environ 120 000, faites le compte, eh bien, c'est l'État lui-même, c'est l'action, je ne sais pas si c'est la santé ou si c'est l'action humanitaire qui l'assure, mais en tout cas, ce sont les services publics. Je dirais c'est un peu fort le café. Et on a parlé de droit d'ingérence. Je ne sais pas si on a tellement le droit d'ingérence. Mais on parle aussi d'assistance à personne en danger. Mais je dirais c'est ce que nous faisons. Nous le faisons de façon très pacifique, on n'a jamais égorgé personne. Ce sont un jour à Orléans, nous étions au centre hospitalier d'Orléans, et il y avait le sous-directeur qui était là, et avec un petit sourire, il nous dit, mais au fond, vous êtes des terroristes. Alors, il y avait un militant qui était à côté de moi, qui a sorti son chapelet, et qui a dit, voilà nos armes. Et puis on lui a dit, mais alors... Où sont vraiment les terroristes? Est-ce que ce sont ceux qui ont des armes, enfin qui ont ces armes-là, ou bien ce sont ceux qui les tuent, n'est-ce pas? Ou ceux qui viennent défendre ceux qu'on tue? Où sont les vrais terroristes? On peut se poser la question. Comme assistance à personne en danger.
On est en face de c'est le, ce que je répète pratiquement tous les mercredis soirs à ce micro, c'est le grappin. À partir du moment où on a l'inversion de la vérité,
voilà.
C'est la signature du grappin. Et quand on vous dit, quand des gens qui passent leur vie, enfin des gens qui ont prononcé le serment d'Esculape, qui consacrent leur vie de 8h du matin à 6h du soir à tuer des bébés dans le ventre de leur mère, viennent vous dire quand vous arrivez avec un chapelet pour les dissuader de continuer, pour dissuader les mères de se faire avorter, vous dire à vous, vous êtes des terroristes, ben ça, si c'est pas signé celui d'en bas, je me demande qui peut oser proférer une contre-vérité aussi éclatante aux yeux du monde. Voilà.
Vous me donnez encore le temps d'une toute petite anecdote.
Oui.
Nous étions à Saint-Sébastien, à côté de Nantes, dans une clinique tout à fait moderne, tout à fait, les femmes accouchaient dans l'eau, dans la musique, enfin tout se passait. J'avoue, c'était une très belle clinique, mais on y faisait des avortements. Et nous étions, enfin le directeur nous avait entraînés dans un
hall. Ils faisaient dans l'eau les avortements aussi.
Ça, je ne sais pas vraiment. On n'a pas osé demander tout ça.
C'est ça qui est effrayant, vous comprenez, parce que les mêmes qui disent il faut faire naître le bébé dans une atmosphère particulière pour pas qu'il soit traumatisé par le choc de la naissance, c'est ce qu'on nous explique. Alors on fait des accouchements dans l'eau. D'ailleurs, il y a des noyades. C'est arrivé il y a pas très longtemps. Parce que c'est très chic, c'est américain, c'est le côté le retour à l'état de nature, c'est le côté marsouin ou dauphin du bébé et tout. Et les mêmes qui font ça, quand ils ont fini de faire accoucher dans l'eau pour pas traumatiser le bébé, ils prennent une tringle à rideau et ils vont égorger le bébé dans le ventre de sa mère. Mmh. Ce sont des monstres les gens qui pratiquent comme ça.
Oui, bien entendu. Et alors justement, vous allez voir la suite, c'est que le directeur nous réunit, on était tous un peu tendus, il y a toujours une atmosphère un peu tendue, le directeur était tout pâle, et puis à un moment il nous dit, et je vous assure, j'ai pu vous assurer que je reçois des lettres de femmes qui se disent heureuses d'avoir avorté. Ça, c'est un problème intéressant. Mmh. C'est une question que les auditrices peuvent poser, certaines en tout cas. Réponse, alors, encore un garçon à côté de moi, il tremblait lui aussi. Il a dit ceci. Avez-vous reçu des lettres de l'enfant?
Oui. Alors, docteur Dor, vous avez une adresse à laquelle on peut manifester.
Alors, je voudrais dire une chose, on ne demande pas d'argent du tout. Bon. Nous vivons, c'est un peu spécial, mais finalement, on n'a pas besoin d'argent.
Ça change un peu nos auditeurs.
Ça change un peu les auditeurs. On ne réclame pas d'argent, mais des militants. Alors, évidemment, les militants vont dire, tout ça c'est bien joli, mais on risque quelque chose. Ah, c'est vrai qu'on risque. Je dois vous dire que plus ça va, plus on risque. Mais, après tout, la vie c'est ça. Moi, je crois que si nous avons risqué quelque chose et que la loi, les cœurs changent, si Dieu est mieux aimé, si les petits sont entourés, réconfortés, je dirais, il n'y a pas de trop gros risques pour ça. Alors j'invite tout le monde à venir, bien entendu, je donne le numéro de l'association, le téléphone, 47 83 97 42. Et je leur dis que nous avons bientôt une manifestation. J'ajoute aussi qu'il n'est tout de même pas trop de crainte, parce que il semble qu'actuellement, il y a eu un recours constitutionnel de 61 sénateurs le projet Neyers soit déjoué en quelque sorte, à savoir que donc il y ait ce délit d'intervention ne soit pas accepté. Pour l'instant, on est dans cette, mais ça peut changer évidemment. Donc nous sommes un peu dans l'incertitude. On craint, je crois, dans le quart d'heure, on ne craint pas grand chose. Plus tard, ça, je ne sais pas. J'avoue, je ne sais pas. Mais après tout, si nous allons en prison et si nous payons des amendes, après tout, je dirais, nous aurons autant que possible le cœur léger.
Et
nous aurons la joie d'avoir essayé.
Vous appelez au combat et vous suivront ceux qui voudront combattre à vos côtés.
Que Dieu nous garde.
Et que Dieu donne la victoire. Comme disait Jeanne d'Arc. Le téléphone 47 83 97 42, le téléphone des SOS tout petit. Docteur Dor, merci beaucoup.
Merci infiniment.
Et puis revenez nous voir à l'occasion pour nous tenir au courant
c'est une joie
de la suite de vos activités.
Nous aussi, nous sommes exclus.